Bonjour et vraiment bienvenue à ce culte. Ce matin, c'est un culte famille. Alors, pour des différentes raisons, nous avons deux enfants et je les invite ensuite d'entrer ici sur l'estrade. Vous vous demandez certainement ce que c'est ce ruban bleu, cette chaise, etc. Nous allons le découvrir ensemble. Une barque, tu as raison. Mais quelle barque ? En fait, nous allons voir ensemble un texte de l'évangile de Luc qui parle de la pêche miraculeuse. Dans les évangiles, il y a deux textes qui parlent d'une pêche miraculeuse, un au début et un vers la fin. Et aujourd'hui, nous allons voir celui du début. Et je propose que nous commençons à lire ce texte, nous allons le lire en petites parties, et j'ai le privilège d'avoir trois lecteurs de trois générations différentes. Et je suis très reconnaissante pour cela. Donc, nous allons commencer avec ce texte qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 5, et c'est Ferdinand qui va lire les premiers versets. Merci Ferdinand.
Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézaret, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, les pêcheurs en étant descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule.
Merci beaucoup. Donc, ces versets nous mettent en scène. Jésus est en Galilée et il enseigne à la foule. Et pour pouvoir parler beaucoup plus efficacement, il va dans une barque. Alors, en 1986, c'était une année de sécheresse dans le pays, le niveau du lac a baissé. Et il y avait des pêcheurs qui ont trouvé, enfouis dans la boue du lac, une barque. Cette barque était construite du bois de cèdre et de chêne, et vous savez qu'on peut dater quand ces arbres ont été abattus, il y a des méthodes chimiques, et il a été daté à peu près à la période de Jésus. Les datations précises, on donne toujours des parenthèses, c'était 100 à 70 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était le type de barque qui existait à l'époque et dans laquelle, très probablement, Jésus s'est assis pour enseigner. Alors cette barque a été 8 mètres longue. Donc ça, c'est un modèle 1 à 2. C'est juste 4 mètres jusque-là. Il était 2,3 large. De nouveau, c'est un peu plus étroit ici. Et à peu près 1,4 mètre profond. Donc c'était une barque qui pouvait avoir l'équipage plus 10 passagers ou l'équipage plus presque une tonne de poissons. Donc c'était impressionnant. Maintenant, j'ai construit cette barque ici pour les enfants et je voulais les inviter de prendre place dans la barque. Il y a toutes sortes de choses à faire ici et vous pouvez rester tout le culte dans la barque. Ça va, Bérénice, aussi d'y aller. Vous arrivez? Donc, cette barque, elle est beaucoup plus petite. C'est un modèle 1 à 2. J'ai pensé que déplacer la batterie serait un peu difficile. Maintenant, nous pouvons... Ah, il aimait aussi. Ah, c'est bien. Toi, tu aimerais aussi, oui. Avec ton papa, tu peux. Hein? Maintenant, nous allons lire le deuxième texte, la suite du texte. Merci Yvan de le lire.
Il eut fini de parler. Il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient.
Merci beaucoup. Donc, ils font la pêche. La pêche était une partie extrêmement importante de l'économie de la région à l'époque. Donc, les poissons étaient séchés et puis après, il y avait aussi la production d'une sauce. Et les poissons qu'ils attrapaient, c'était les carpes, qu'on connaît aussi ici, des sardines, et puis une espèce qu'on connaît ici, mais qui est tropicale, les tilapias. Donc, quand ils étaient séchés, ils étaient aussi transformés dans une sauce poisson, et cette sauce a été exportée dans toute la Méditerranée. Une fois que j'étais en Grèce, j'ai acheté des recettes de la Grèce antique et il y a la référence à cette sauce. N'ayez pas peur si vous venez manger chez moi, je ne vais pas vous le servir. Maintenant, les enfants, ça c'est des poissons qui étaient là-bas, mais quel poisson est-ce qu'il y a dans le lac Léman? Oui, et ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? Ah, ça c'est une truite. Et le premier avec l'estrie, c'est quoi? C'est la perche. J'ai pas... Il y a les dessins et vous pouvez les colorier selon les exemples. Et sur les dessins, c'est écrit ce que c'est. Donc, je vous laisse. Et si vous voulez, nous pourrons afficher après vos dessins pour que tout le monde puisse les admirer. Alors, donc Pierre et ses amis faisaient partie de cette économie florissante de la région. Et ils étaient experts en la matière, donc ils le faisaient chaque fois. Ils savaient qu'ils pouvaient attraper des poissons, surtout la nuit, et puis pas le jour. Alors, quand très humblement, Pierre donne son avis qu'ils ont déjà tout fait, il parle en expert. Mais néanmoins, il se dit, mais si Jésus me le demande, je vais le faire. Et il le fait. Et la prise est énorme. Donc, le texte nous dit qu'ils ont rempli deux barques, en présumant que c'était des barques comme celle qui a été trouvée sur le site archéologique. Ça pourrait être une tonne et demie ou plus de poissons. Elles étaient vraiment remplies. Maintenant, est-ce que c'était un miracle? Est-ce que Jésus a réuni les poissons sous cette barque pour ce moment-là? Nous ne savons pas et les commentateurs divergent. Une des interprétations, c'est que ces poissons se déplacent par banc et que il y avait le banc qui se trouvait là. Est-ce que c'était possible de voir? Si c'était possible de voir, Pierre et ses amis devraient être experts. On ne saura pas. Il est intéressant que dans un des commentaires par Frédéric Godet, donc théologien du 19e siècle, côté Neuchâtel, dans son commentaire, il ajoute un paragraphe « Et par ailleurs, les bancs de poissons existent dans nos lacs. » Il y a des prises comme ça spectaculaires où les pêcheurs laissent leur filet là où il y a le banc. C'est arrivé dans notre lac et il a cité se faire le lac de Zurich aussi. Donc, nous ne savons pas si ça c'était un miracle dans le sens quelque chose de complètement extraordinaire en dehors de la nature. Mais ce qui est important, Jésus appelle ou dit à Pierre et ses amis de faire une chose. Ils le font et il y a des résultats. Maintenant, il y a le prochain texte, la suite du texte que nous allons prendre, et c'est Jean qui va le lire. Merci Jean.
Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Merci beaucoup. Donc, nous avons cet événement extraordinaire, cette pêche en dehors de tout de ce qui est habituel. Mais ce qui touche beaucoup plus, ces disciples qui sont stupéfaits par cette prise inhabituelle, c'est l'appel. Quelque part, cet événement, dans le domaine de leur expertise professionnelle, leur montre une fois de plus la grandeur de Jésus. Et Pierre se sent indigne. Donc le texte nous dit que Pierre tombe sur eux aux genoux et il a reconnu la grandeur de Jésus. Maintenant, c'est le texte qui est souvent cité pour accentuer la vocation, et surtout la vocation de Pierre. Alors, si on le lit comme littéralement, donc Pierre qui est pêcheur, qui attrape les poissons, il va devenir un pêcheur d'hommes. Une des interprétations pourrait être que il ne change pas de métier, il reste expert dans cette matière, mais il change d'objectif. Je ne suis pas sûre que c'est la bonne formulation, mais Pierre reçoit un objectif. Il y a des interprétations de ce texte qui disent « Pierre a été mis à part pour un ministère à plein temps » pour se consacrer à l'Église qui va naître. Est-ce que ce texte peut aussi être interprété comme le texte qui est au début des appels spécifiques pour des ministères spécifiques dans l'Église? Alors, certainement, la vie de Pierre était une vit au service de l'Église. L'Église a été bâtie sur certaines de ses actions et des autres apôtres, bien sûr. Si vous êtes intéressé pour connaître la suite, suivez la série de prédications de cet été qui sera centrée sur la vie de Pierre, comme c'est décrit dans le livre des Actes. Donc, on apprendra plus de cette vocation cet été au cours des prédications. Avec Pierre, il y a aussi ses amis qui suivent Jésus. Ils laissent tout et suivent Jésus. Donc, ça, c'est le texte qui a ce que le texte nous dit. Mais finalement, la question qui se pose aussi, cet appel était pour Pierre, pour une fonction particulière, mais qu'en est-il pour nous? Il est clair que dans la Bible, nous avons d'autres exemples des appels très spécifiques. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Samuel, encore enfant, entend la voix de Dieu la nuit qui l'appelle. On a dans l'Évangile de Matthieu dans les autres évangiles, le texte où le collecteur d'impôts est appelé par Jésus pour le suivre. Et bien sûr, dans le livre des Actes, il y a cette rencontre extraordinaire de Paul quand il est terrassé sur le chemin de Damas. Donc, on a des exemples, des appels, des vocations très particulières et dramatiques. Peut-être entre nous, il y a probablement peu qui ont reçu un appel d'une façon aussi dramatique et aussi spécifique parfois. Pierre, d'accord, là, c'est pour dire « tu vas t'occuper de l'Église quelque part », mais c'est quand même relativement spécifique. Qu'en est-il de l'appel qui est adressé à nous tous? Je pense que nous pouvons le considérer sous trois formes. Tout d'abord, chacun de nous reçoit un appel au salut et à la foi. Nous sommes appelés par le message de l'Évangile et pour la gloire de Jésus-Christ. Par exemple, l'apôtre Paul le rappelle dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes tous appelés à la foi et pour suivre, pour l'accepter. Donc et notre réponse à cela est importante. Ensuite, il y a un appel qui est aussi adressé à nous tous, sans exception. C'est un appel à vivre en communion avec Jésus-Christ. dans beaucoup d'épîtres, on a des exemples de cela. Comme par exemple l'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc nous sommes appelés à vivre en communion à Jésus. Mais nous sommes aussi appelés de vivre en Église, en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est aussi à travers les générations. Maintenant, le troisième aspect d'un appel, c'est un appel très spécifique, pour une tâche spécifique. Et c'est là, probablement, où nos expériences peuvent diverger. Dans l'Épître aux Galates, Paul parle de son appel, qu'il a été mis à part pour une tâche particulière. Alors, je ne sais pas si entre vous, il y a des personnes qui ont reçu un appel aussi spécifique. Est-ce que il y a certaines personnes, et on a eu des témoignages, qui ont été appelées pour la mission, pour aller dans un pays spécifique, pour servir. Il y a d'autres qui ont été encouragés par d'autres personnes, par d'autres frères et sœurs, pour une orientation professionnelle ou d'activité particulière. Donc ça peut prendre des formes très différentes. Pour certains, cette vocation peut prendre aussi la forme des portes qui s'ouvrent ou des portes qui se ferment et on est dirigé vers là où Dieu nous veut. Personnellement, je trouve ça toujours très encourageant d'entendre des témoignages des personnes qui, à un moment donné, ont été dirigées par Dieu vers des aspects particuliers où Dieu leur a parlé. Donc, si vous avez des témoignages, venez nous en parler et on pourra faire de sorte que vous puissiez les partager. Donc, tandis que les deux premiers aspects de l'appel que Dieu peut nous adresser sont clairs, adressés à nous tous, et vraiment, nous sommes très encouragés à suivre, le troisième, qui concerne un appel spécifique, a besoin d'un discernement. Et ce discernement, parfois, il faut l'exercer dans l'Église. Donc, partager avec des frères et sœurs dans la foi. Alors, comment est-ce que vous avancez avec les poissons? Mais c'est beau.
J'ai inventé.
Tu inventes, c'est bien. Alors, c'est des poissons fantaisie. Ah oui, alors.
Après, je vais essayer de recopier ça.
Mais tu peux les aussi prendre à la maison. On va les afficher. Donc, dessiner les poissons, c'est une chose, mais on le fait en se souvenant de cette pêche miraculeuse. Mais ce n'est pas pour les 2 tonnes de poissons que c'est important. C'est important pour l'appel qui a suivi. Pierre qui a accepté cet appel et qui était à l'origine, qui a bâti, qui a contribué à bâtir l'Église. Pierre est un exemple pour nous. Il est un des plusieurs. Et puis, nous avons, quand nous lisons la Bible, nous avons plein d'exemples comme Pierre. Et pour clore ce message, j'aimerais lire les premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Donc, c'est précédé d'un chapitre qui parle des personnages de l'Ancien Testament. Et l'auteur de l'Épître dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. » Donc, les appels de ceux qui ont précédé nous servent du témoignage et nos appels auxquels nous devons être sensibles et desquels nous pourrons témoigner vont peut-être servir témoignage pour la prochaine génération. Je propose que pendant le moment de prière, nous puissions remercier Dieu pour les appels que nous avons eus et que nous puissions aussi lui demander de nous adresser sa parole. Merci.